Une fois n'étant pas coutume, je vous propose de démarrer avec une minute d'avance. Donc, d'abord, bienvenue à vous toutes et tous. On est très, très heureux, et par ma voix, toute la direction du groupe Econocom et les entrepreneurs du groupe Econocom qui sont dans la salle, à côté de vous. Donc, je vous engage à les connaître. Un peu mieux. Donc, on est très heureux de vous accueillir ce matin pour la présentation de nos résultats annuels 2018. Merci de votre présence, du temps que vous nous consacrez. Merci d'être curieux de ce qu'est Econocom, de ce que veut être Econocom. Et ça, on vous en parlera pas mal aujourd'hui, en plus, évidemment, de vous détailler, nos résultats 2018. Donc, le sommaire de cette réunion est classique. Il ne vous étonnera pas. Un message introductif et stratégique de Jean-Louis Bouchard, notre président et CIO. Ensuite, Galiane Touze, notre secrétaire générale, vous présentera nos résultats 2018. Ensuite, avec Julie Verlingue, directrice exécutive du groupe, et votre serviteur, nous vous proposerons un certain nombre, je dirais, d'éléments concernant nos vecteurs de croissance pour le futur et nos investissements business pour porter notre croissance, car nous sommes une valeur de croissance et une entreprise de croissance du digital. Et enfin, le traditionnel outlook pour l'année et la non moins traditionnelle session de questions-réponses, et on se soumettra de bon cœur à toutes vos questions. Voilà, donc sans plus tarder, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Louis, que je vous demande d'accueillir chaleureusement et à qui je passe avec bonheur la parole.
Merci Bruno, bonjour tout le monde. En quelques minutes, je voudrais faire deux choses. D'abord, vous essayer de vous expliquer ce que fait Econocom. Et d'autre part, vous dire quelques mots sur les événements 2018 et les conclusions et les leçons qu'on en a tirées. Alors, pourquoi vous parlez de ce que fait Econocom ? Parce que du 22 mars l'année dernière jusqu'au 15 octobre, j'ai eu le temps de jouer au golf, de m'occuper des chevaux de course, j'adore les chevaux de course, de réfléchir, de stresser déjà un peu parce que j'avais des informations un peu disparates. Mais surtout, donc je rencontrais des amis et j'avais le temps de poser la question en disant « Ah oui, Econocom, on connaît, oui, c'est un truc, là. Vous êtes une ESN, vous êtes... Mais qu'est-ce qu'on fait exactement ?»« Non, c'est compliqué, on comprend pas trop. » Donc c'est pas clair, c'est toujours pas clair aujourd'hui. Et donc je vais essayer de vous donner un exemple qui va essayer de mieux vous faire comprendre ce qu'est Econocom. On voit beaucoup de résultats dans les journaux aujourd'hui et il y a beaucoup d'entreprises qui donnent les résultats sans dire exactement ce qu'elles font. Alors autrefois, les noms ne changeaient pas souvent, donc on disait Renault fait des voitures. Aujourd'hui, on voit, Veolia, c'est déjà un peu plus clair. Engie, ça a déjà un peu changé. Kering. Donc souvent, on ne rappelle pas exactement ce que font. Donc là, à cette occasion, je vais essayer de vous donner un exemple pour vous montrer ce que fait Econocom. Est-ce que c'est une ESN? C'est pas très clair. Est-ce qu'on fait de la finance? Bon, pourquoi on fait de la finance? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. À quoi ça sert? On est dans le digital. Digital, c'est où? Alors, en général, il y a une réponse simple. Maintenant, dès que vous voyez un écran, derrière, il y a du digital. Donc, maintenant, le digital, c'est partout. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et là, je vais vous donner un exemple qui résume assez bien ce qu'est Econocom, parce que quand on va multiplier ces exemples, vous verrez et vous rendrez compte souvent en vous promenant que Econocom est dans beaucoup d'endroits. Donc, je vais vous demander 3 minutes pour regarder cette petite vidéo. Donc derrière tout ça, il y a Econocom. Et donc Econocom, c'est à la fois un architecte, puisqu'on aide les clients. Si vous êtes le CEO de Schiphol Airport ou le directeur informatique, encore pire, et on vous dit il faut être digital, vous imaginez un peu la complexité de ce que ça représente comme défi. Le choix des équipements, les installateurs, la conception, le logiciel, le financement, la durée de vie, tout ça, c'est très compliqué. Et heureusement, il y a un architecte qui est en même temps maître d'œuvre, qui s'appelle Econocom. soit directement, soit au travers de satellites d'ouvrages, et qui est capable de piloter cet ensemble. Et donc le maître d'œuvre peut de temps en temps être lui-même le réalisateur ou pour le sous-traiter, mais dans tous les secteurs du digital, il y a une vision, c'est l'aéroport. Si vous, je ne sais pas, par exemple, toutes les boutiques Orange en Espagne, il y en a 900, c'est Econocom. Chez Renault, chez les concessionnaires, les Airbox, c'est Econocom. On retrouve Econocom dans ce genre d'installation, à l'hôpital, par exemple. L'hôpital, vous pouvez avoir toutes les fonctions qui est le circuit du patient, on ne dit pas client à l'hôpital. J'ai dit une fois client, je me suis fait engueuler, donc c'est plutôt un patient. Mais tout le circuit, ou encore mieux, ou encore beaucoup pointu, la gestion des salles d'opération. On installe en Belgique, au Chirec, une vingtaine de salles d'opération. Dans les salles d'opération, il y a des écrans partout. Une partie de ces écrans qui sont connectés dans le monde entier, parce qu'il y a plusieurs médecins qui peuvent opérer en même temps. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces écrans? Qu'est-ce qui fait marcher cet ensemble? C'est Econocom. Avec le bras financier, qui est très bien expliqué à la fin de cette petite vidéo, c'est que pourquoi financer alors que la plupart de nos clients ont eux-mêmes une trésorerie pléthorique? Financer, c'est accompagner un cycle de vie de A à Z avec tout le recyclage. Et donc aujourd'hui, c'est l'évolution, le cycle de vie, le recyclage. Et donc c'est une prestation qui a été inventée il y a 20 ou 30 ans dans les flottes de voitures où plus personne ne s'occupe de ces voitures. Aujourd'hui, dans 5 ans, il n'y aura plus personne qui va s'occuper de sa flotte d'écrans, plus tout ce qu'il y a derrière. Et il faut des gens comme Econocom qui savent faire les deux, choisir, livrer, installer, financer. Donc voilà ce que fait Econocom. Donc j'espère que ça vous donne une idée un peu plus précise, bien que ce soit difficile à expliquer au premier abord. Mais ça vous donne aussi tout le potentiel du groupe, la difficulté à gérer, parce que coordonner tout ça, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de professionnalisme, mais on y arrive. Et d'autre part, le potentiel, parce que ce digital est en train d'envahir tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui échappe. Et donc, le défi, il est de bien faire notre métier, d'avoir un bon service client. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on arrive à faire. Et on en est très content. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était les événements 2018. Et pour comprendre les événements de 2018, il faut remonter un peu en arrière. Il faut remonter plutôt à 2016 ou 2017. Vous n'ignorez pas, à cette époque-là, sur 6 personnes du comité de direction, j'en ai changé 4. Il y a encore, et j'en suis heureux avec moi, Bruno Grossi qui est là. Il y a Jean-Philippe qui est revenu à un moment difficile de l'année 2018, et je vais en parler. Et j'en ai changé 4 parce que tout allait bien. Les affaires étaient excellentes, les chiffres étaient excellents. Le cours de bourse était parfait. Et moi, je me prenais pour le pilote. Et quand je tournais à gauche, ça ne tournait pas tout à fait à gauche. Quand je tournais à droite, ça ne tournait pas tout à fait à droite. Et quand je disais, mais messieurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne faites pas ce qu'on dit? Ben, il dit, ben, mais Jean-Louis, tout marche bien. Donc, pourquoi changer? Et il y avait des fondamentaux qui n'étaient pas traités. Et comme tout bouge, si vous ne traitez pas les fondamentaux, eh bien, c'est comme les pénaltys. Si vous ne bougez pas, vous êtes sûr de prendre le pénalty. Donc, si vous bougez, de temps en temps, on en arrête. Mais là, il y avait des choses fondamentales qui n'étaient pas faites. Il y avait du recrutement qui n'était pas fait, renouvellement des forces commerciales, renouvellement des offres, renouvellement des systèmes internes. Je vous promets que, Econocom, je dis ça pour Mathilde au premier rang, mais que, question, le cordonnier le plus mal chaussé... On ne fera pas mentir le dicton, mais on y travaille. Donc, il y avait des fondamentaux qui n'étaient pas faits, qui n'étaient pas adressés. J'ai changé l'équipe de direction et j'ai fait une erreur. On voit toujours ces enfants plus beaux qu'ils sont. Et là, j'ai un fils qui s'appelle Robert, que vous connaissez, qui est un beau garçon. Je ne vois pas plus beau qu'il n'est, mais j'ai travaillé avec lui pendant un peu plus de 20 ans, avec beaucoup de succès. Et je lui ai vendu 2 sociétés. Deux en mauvais état, enfin une en moyenne mauvaise, une en très mauvais état, et les deux, il a eu un gros succès pour faire marcher ces sociétés, les développer, recruter des gens motivés. Et donc, j'ai pensé qu'il était capable de prendre ma place à la direction du groupe. Je pense qu'il en était capable, mais j'ai fait une erreur qui était au moment où j'ai voulu recompléter cette équipe de direction, quand il y avait des candidats, et par exemple, Julie, au premier rang, était candidate. Je rencontrais les candidats, lui rencontrait les candidats ou les candidates, et la question qui était, avec qui je vais travailler? Donc à un moment, j'ai dit à Robert, ben, il faut qu'on choisisse. Est-ce que tu es prêt à prendre la suite ou pas? Il m'a dit, je suis prêt. J'ai dit, ben, écoute, les candidats, c'est toi qui les vois, qui les recrutes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a recruté des candidats, qui étaient des gens parfaitement compétents, mais qui n'avaient pas l'expérience des Econocom, qui ne connaissaient pas la maison, et surtout qui venaient d'entités en général publiques ou qui venaient du conseil, comme je dis. Donc on avait une équipe de direction manquant totalement d'expérience. Et ce manque d'expérience s'est traduit rapidement par une difficulté à prendre des décisions. Et dans les affaires, si vous ne prenez pas de décision, ben, les affaires marchent moins bien. La trésorerie remonte moins bien. Et rapidement, on a vu arriver un danger qui était d'avoir des résultats moins bons que ceux qu'on espérait. Donc ça, c'était embêtant. Plus une trésorerie moins bonne que celle qu'on avait visée. Et que la conjugaison des deux phénomènes pouvait nous créer des difficultés en début de cette année. Donc on a, au niveau du conseil d'administration, proposé à Robert de renforcer, avec l'arrivée de Jean-Philippe, qui était disponible et qui connaît la maison, j'allais dire aussi bien que moi, il la connaît mieux que moi, puisque pendant 27 ans, c'est lui qui l'a managé, et pendant 2 ans, il avait eu le temps d'y réfléchir. Donc, et Robert n'a pas accepté, ce que je comprends, parce qu'il a dit, vous mettez sous tutelle, non, moi, je ne sais pas. Donc j'ai dit, bon, écoute, aujourd'hui, c'est l'urgence, c'est de faire tourner la maison. La maison va bien, mais elle pourrait aller moins bien si les choses continuent à se dégrader. Et donc, je dis, j'ai pris la décision et j'ai proposé à Jean-Philippe, qui a courageusement accepté de revenir. Nous sommes revenus début octobre et on a travaillé pour faire beaucoup de choses. Alors, on a d'abord réglé ce problème de trésorerie en réglant un certain nombre de litiges, en discutant avec des clients, en signant des contrats. Après, au point de vue résultat, vous avez vu qu'on a maintenu à peu près le résultat qui avait été prévu. Ça, c'était une partie du travail. Mais surtout, on a fait 2 choses. On a analysé ce qui s'était passé. On s'est réunis tous ensemble. L'équipe de direction, c'est 14 personnes. Il y a 14 directions transverses et centrales, j'allais dire. Sur les 14, il y a 7 directions transverses et centrales et 7 directions opérationnelles. Il y a une partie dans la salle. Il y a Angèle qui s'occupe de l'Espagne ici. Il y a Philippe qui s'occupe de la distribution. Il y a Laurent qui s'occupe des services. Eric qui s'occupe des finances, enfin de TMF France. Enfin, je vous citerai pas tout le monde. Donc aujourd'hui, on est 14, une équipe de direction horizontale, on travaille tous ensemble. Et sur ces 14, il y en a 12 très expérimentés. Et donc, on ne refait pas l'erreur de l'année dernière ou de l'année d'avant. Aujourd'hui, on a une équipe de direction dans laquelle il y a beaucoup d'expérience. Et on a, en plus du 109 brillant et nouveau, avec l'arrivée de Julie Verlinck, qui était dans le paquet de cadeaux parce qu'elle est arrivée fin mars, début avril. Donc, on s'est croisés. Et c'est d'ailleurs dans un interview avec Julie, je recevais Julie, où la question s'est posée en disant « Je travaille avec Robert ou je travaille avec vous ?» Et donc, comme elle aime beaucoup Robert, voilà, elle a travaillé avec Robert. Mais on dînait avant-hier soir, toute l'équipe à Bruxelles. Il y avait Robert, il y avait l'équipe de direction, il y avait Julie. Et les relations avec Robert se sont stabilisées, apaisées et sont bonnes. Et il a eu beaucoup de courage de surmonter cette épreuve. Et donc, qu'est-ce qui change ? Il change, c'est qu'on a une équipe de direction expérimentée. On a une équipe de direction, il y a un deuxième changement, qui travaille la main dans la main, alors qu'on était plutôt dans un système où il y avait une équipe de direction et fonctions transverses qui donnait des ordres aux opérationnels. Aujourd'hui, les opérationnels sont au même niveau et on décide ensemble. Donc, par exemple, si on décide d'acheter ou de vendre une société, ça se fait à 14 personnes ensemble, c'est plus Jean-Louis Bouchard à 2-3 personnes, ou Robert, ou Julie, ou Jean-Philippe, ou Bruno, qui décident en l'imposant. Donc, on travaille ensemble. Et ça, c'est vrai. Alors, de ce changement, il est au niveau groupe. Il est aussi très vrai en France, et la France, c'est la moitié du groupe. Et dans la moitié du groupe, on a une équipe de direction, qui est d'ailleurs devant moi, un trio redoutable, Éric Lucas, Philippe Gouillou et Laurent Roudil. Donc, les 3 métiers principaux France, plus les satellites qui sont représentés par Bruno Grossi, autrefois, c'était très la conquête de l'Ouest, c'était des silos, chacun développait son activité, on rigolait bien ensemble, mais on ne travaillait pas ensemble. Donc le quatuor en question m'a proposé dès mon retour au mois d'octobre, en disant nous, on en a marre de travailler comme ça, on veut travailler ensemble. Et donc ils ont organisé un COMEX France qui se réunit toutes les semaines, tous les 15 jours avec moi d'ailleurs, et qui a commencé à travailler ensemble il y a presque 6 mois. Et on commence à voir des résultats très... Ça vous paraît surprenant qu'on soit aussi bête pour apprendre à travailler ensemble au bout de 45 ans. C'est vrai, c'est comme ça. Mais je peux vous dire que ça réserve beaucoup de bonnes surprises. Et aujourd'hui, on voit déjà partout fleurir le résultat de cette nouvelle façon de travailler. Donc, on tire ce qui s'est passé l'an dernier, manque d'expérience. Donc, c'est un essai. J'ai des fils qui sont plus analytiques que moi. Moi, je suis plutôt plus spontané, poussi. J'avance et après, je regarde les dégâts et j'essaie de corriger les dégâts. Et après, je repars en avant. Il y en a qui étudient beaucoup plus et puis qui prennent les décisions plus calmement. Je ne vais pas me changer à 77 ans. Par contre, j'ai des collaborateurs qui me changent. J'ai des collaborateurs qui travaillent différemment. Et je prends un énorme plaisir à travailler avec eux. Donc, vous avez un nouvel Econocom devant vous. Et on va vous présenter les résultats 2018 et les perspectives 2019 et la suite. Merci beaucoup.
Merci Jean-Louis. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors, séquence chiffres maintenant. Et je crois qu'on a fait les choses bien dans l'ordre pour vous. Donc, le message du président et son explication sur l'année passée, ce qu'il veut faire avec cette équipe de direction, ce qu'est Econocom au sein du monde du digital. Donc maintenant, les chiffres 2018. Et les chiffres 2018, là, je crois aussi qu'on a fait les choses dans l'ordre. On était hier à Bruxelles pour notre conseil d'administration, pour écouter nos commissaires aux comptes et pour arrêter les comptes. Qui seront, on le pense évidemment, approuvés par l'AG dans quelques mois. Mais pour les présenter, je demande à Galiane Toud, notre secrétaire générale, que vous connaissez tous, ou en tous les cas, si vous ne la connaissez pas, eh ben, vous perdez beaucoup. Donc, je vous engage à la connaître. C'est une femme de chiffres qui a... mais voilà ce que j'allais dire.
Merci, Bruno.
Qui a beaucoup d'autres qualités. Donc, Galiane... The floor is yours.
Merci beaucoup, Bruno. Merci, Jean-Louis, et bonjour à tous. Alors, je vais vous parler des résultats financiers 2018, mais avant, je voulais vous parler quelques instants de l'année 2018, parce que c'est une année un peu à part et c'est une année qui nous a conduit à faire appel à deux de nos valeurs, qui sont des valeurs, je pense, fondamentales du groupe, qui sont des valeurs qui ne sont plus affichées dans nos bureaux, parce qu'on a des nouvelles valeurs, on en a trois, et celles-ci n'en font plus partie. Elles n'en font plus partie parce qu'elles n'ont plus besoin, parce qu'elles sont incarnées, je pense, dans les hommes du groupe. Et c'est les valeurs Face Reality et les valeurs Bounce Back. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je pense qu'elles ont vraiment été très présentes au fil de l'année. Face Reality, je pense que Jean-Louis en a parlé tout à l'heure. On a été confrontés à une réalité et on a eu cette capacité qui est propre au groupe à prendre des décisions rapidement, des décisions franches, des décisions... tranchées et des décisions courageuses. Et c'est ce qui a conduit effectivement Jean-Louis et Jean-Philippe à rejoindre, à reprendre le gouvernail en octobre ou en novembre dernier. Bounce back, alors bounce back, c'est savoir rebondir, c'est aussi utiliser l'obstacle pour aller plus loin. Et j'en parle parce que je pense qu'un des sujets de fierté, c'est la capacité du management et des équipes à se mobiliser. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être sur l'estrade et de vous présenter un certain nombre d'agrégats qui sont des agrégats qui sont très satisfaisants. Et je pense en particulier à la dette financière nette et à la génération de free cash flow qui sont de très bonnes factures. Et j'en remercie. Il y a Valérie Claret au premier rang, Éric Basile et évidemment Jean-Philippe qui a été le grand ordonnateur sur les derniers mois de l'année. Bon voilà, c'est fini. Je vais vous parler des chiffres. Assurez-vous maintenant. Alors, c'est moi qui... Voilà. Alors, en une slide, voilà le résumé de notre année d'un point de vue, je dirais, quantitatif. Donc, quatre agrégats. Le chiffre d'affaires, 2,85 milliards d'euros. Il est en croissance significative, 8%, et en croissance organique de 2,7%. On estime que c'est un résultat satisfaisant. Pourquoi ? D'abord parce que c'est en ligne avec la dynamique du marché. Alors, Julie nous dira que c'est une partie seulement de notre marché, hein, le marché des ESN. Mais également satisfaisant parce qu'on avait un effet de base, comme on dit, assez challenging puisqu'on avait fait 10% de croissance organique l'année dernière. Le résultat opérationnel courant, 115 millions d'euros, 4%. C'est un résultat qui ne nous satisfait pas et sur lequel on va travailler dans les années à venir. Donc c'est un résultat qui est en retrait et on va revenir sur les explications de ce retrait. La dette financière nette, 252 millions d'euros contre 279 l'année dernière. C'est une dette qui est donc en baisse, c'est une dette qui est maîtrisée, 1,6% de l'EBITDA 2018. Et c'est une dette qu'on a atteinte grâce à une forte génération de cash flow, je vous le disais, 70 millions d'euros sur l'année. C'est 60% du résultat opérationnel courant, c'est beaucoup. Ce n'est pas une performance qu'on sera nécessairement capable de renouveler tous les ans. C'est 60% du résultat opérationnel courant Et ça s'explique par une très bonne performance, notamment sur le besoin de fonds de roulement qui a très fortement diminué au cours de l'exercice. Alors, je reviens sur le chiffre d'affaires et sur le résultat opérationnel courant. Donc, le chiffre d'affaires, 2,8 milliards. Alors, on parlait il y a quelques années de 3 milliards. Donc, il n'y a pas eu de baisse de chiffre d'affaires. Il y a simplement eu une évolution des normes. Je me permets de vous le rappeler. Parce que la norme IFRS 15, qui a été d'application en 2018, a conduit à minorer de 400 millions d'euros notre chiffre d'affaires. Donc, on serait à isonorme largement au-dessus des 3 milliards qui étaient affichés déjà il y a quelques années. Donc 8% de croissance, 2,7% de croissance organique. Deux de nos trois activités ont une croissance organique très dynamique, supérieure sensiblement à la croissance du marché. Ce sont nos activités de service et nos activités de distribution. En revanche, l'activité TMF a marqué une année de pause, je dirais, mais de pause après un track record et une dynamique de croissance très importante sur les 10 dernières années. 4% de croissance organique sur 10 ans, 10% sur les deux dernières années. Résultat opérationnel courant, 115 millions d'euros. Il est en retrait de 39 millions d'euros, essentiellement en raison de l'activité TMF. Et je vais vous en parler immédiatement. Alors, on commence par les épinards, mais c'est très injuste parce que cette activité TMF, elle a été au cœur du succès, de la dynamique de croissance du chiffre d'affaires et du résultat sur les 10 dernières années, sur les deux derniers plans stratégiques. Et elle sera encore le cœur du réacteur sur la prochaine phase de croissance du groupe. Donc, c'est tout sauf des épinards. Un chiffre d'affaires donc, qui est en léger retrait, moins 1,6%. Ça s'explique, je vous le disais tout à l'heure, par cet effet de base qui porte principalement sur l'activité de TMF qui a eu une année remarquable l'année dernière, avec une croissance organique de 10%. Elle est liée également à des décisions de gestion qui ont été prises en fin d'année, avec la décision prise par la direction générale du groupe de privilégier l'objectif de dette financière nette. Et nous avons à ce titre renoncé à un certain nombre d'opérations sur la fin de l'année qui nous auraient permis d'être en légère croissance organique. Le résultat opérationnel courant, maintenant, il est donc de 53,3 millions d'euros, en retrait de 39 millions d'euros. Donc, ça correspond au retrait du résultat opérationnel courant du groupe. Alors, cette variation, elle s'explique par deux choses. Par des éléments, je dirais, non récurrents pour plus de la moitié. Des éléments qui étaient venus bonifier le résultat 2017, on en avait parlé à l'époque, c'est l'évolution, l'harmonisation de notre politique de valeur résiduelle sur des contrats TRO qui avait bonifié donc les chiffres 2017, on en avait parlé en juillet 2017, et des éléments non récurrents qui sont venus dégrader la performance 2018, et je pense en particulier aux 15 millions d'euros de provisions qui ont été constatés sur l'exercice. Donc ça explique plus de la moitié de la variation de la performance en ROC de l'activité TMF. Pour le reste, il y a trois explications plus opérationnelles. La première, je vous le disais, la décision de la direction générale de renoncer à un certain nombre d'opérations sur la fin de l'année. Ça a un impact sur le chiffre d'affaires, mais évidemment sur la marge également. La deuxième raison, ce sont... j'ai en tête un très beau dossier que nous avons signé en fin d'année 2017, qui nous avait d'ailleurs permis, très beau en matière de chiffre d'affaires, mais aussi de marge, et qui nous avait d'ailleurs permis à l'époque de dépasser l'objectif stratégique. Et enfin, le dernier élément, un tassement des marges lié notamment à une augmentation de la structure de coûts. Et ça, vous l'avez vu, il y a un plan d'économie, donc des mesures correctives qui sont mises en œuvre, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc un plan assez important, drastique, qui porte sur l'ensemble des départements du groupe et sur l'activité TMF également. Je voulais revenir sur le track record des 5 dernières années de la location. Donc vous voyez la croissance de cette activité sur 5 ans, elle a été forte, 6,7%. Ce qui est intéressant sur ce slide, c'est que vous voyez en bleu la partie de notre activité qui est refinancée auprès de nos partenaires financeurs. Donc beaucoup d'entre vous sont dans la salle et je vous en remercie. Donc, vous voyez que c'est l'immense majorité de notre activité. C'est plus de 90% de notre portefeuille. C'est 92% de notre portefeuille. Donc, c'est le modèle historique. C'est un modèle asset light. La partie en jaune, c'est la partie qui représente notre activité EDFL, donc l'activité de notre société interne de refinancement. Donc, c'est une initiative que nous avons eue il y a maintenant, qui a été lancée il y a 5 ans, qui nous a permis de prendre des positions sur des nouveaux marchés, des nouveaux types de contrats, innovant et qui a eu pour effet, vous le voyez, d'accélérer la croissance de l'activité, mais je dirais simplement de l'accélérer. Vous voyez que la croissance de la partie en jaune, EDFL, elle est de 17%, donc elle a joué son rôle de booster, Et l'activité de la dynamique de nos activités refinancées, elle est de 6% et de 7% sur l'année. Donc, cette activité EDFL, ça nous a permis de prendre des positions, ça nous a permis d'apprendre à travailler sur certains marchés. Elle a joué un rôle d'accélérateur de la croissance et elle jouera aussi demain un rôle pour alimenter la croissance de la partie en bleu, parce que ça a été une façon aussi pour nous de prendre des positions, d'accompagner nos refinanceurs sur un certain nombre de marchés qui étaient financés par EDFL ces dernières années, mais qui pourront l'être dans la partie bleue, donc refinancés par vous dans les années à venir. Donc un accélérateur de la croissance et un contributeur de la croissance future de cette activité. Dernière slide sur notre activité de location. On a l'habitude de vous donner une photo du portefeuille. Donc le portefeuille de contrats, il est de 6 milliards d'euros. Ce qui est intéressant, ce qui est plus intéressant encore, c'est la partie outstanding, donc les encours. Donc ce sont les loyers qui restent à facturer auprès de nos clients, 2,9 milliards d'euros et surtout en croissance de 9,1%. C'est évidemment un élément favorable. C'est ce qui prépare la croissance et les marges de demain. Avoir des encours, c'est avoir une relation commerciale qu'on peut leverager avec nos clients et c'est aussi avoir un portefeuille de contrats qu'on va pouvoir faire évoluer dans l'avenir. Donc le fait que ces outstandings soient importants et en croissance, c'est deux éléments qui sont évidemment positifs pour l'avenir de cette activité. Dernier élément auquel vous êtes très sensibles, nous aussi, nos auditeurs aussi, ce sont nos intérêts résiduels. 163 millions d'euros en fin d'année. Ils représentent, donc peut-être en un mot, les intérêts résiduels, c'est donc la valeur de revente ou de relocation des actifs que nous donnons en location, que nous estimons à l'échéance du contrat et que nous intégrons dans la marge que nous constatons au moment où nous constatons la marge du contrat. Ces valeurs résiduelles, ce qui est important, évidemment, c'est qu'au moment où elles se réalisent, on les couvre au-delà de ce qu'on avait anticipé dans nos chiffres. Elles représentent seulement 2,7% du portefeuille. 2,7% du portefeuille, c'est moins d'un mois de loyer. Ça veut dire que si on était amené à étendre nos contrats existants d'un mois, on aurait couvert nos valeurs résiduelles. Ce qui est important aussi à suivre en matière de gestion du risque, c'est le taux de couverture. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire notre capacité, quand on récupère ces actifs, à les revendre ou à les relouer à une valeur supérieure. C'est quelque chose qu'on teste tous les ans, parce qu'on a évidemment des millions d'actifs en location, donc on récupère tous les ans un nombre significatif d'actifs, et on vérifie à quel prix on est capable de revendre ou de relouer ces actifs. Et cette année, le taux de coverage est une nouvelle fois supérieur à deux fois, donc à 200%, et même sensiblement cette année. Voilà, donc c'est un agrégat qui peut être perçu à la fois comme un risque et également comme une source de marge future, puisque c'est autant de marge qu'on a en portefeuille et que nous pourrons réaliser dans les années futures. J'en ai fini pour la location et je vais passer un peu moins de temps sur les autres activités, mais comme c'était l'activité qui expliquait une partie de la baisse du résultat, c'était important de passer un petit peu de temps dessus. Les services maintenant, vous voyez le chiffre d'affaires, plus d'un milliard d'euros, en croissance de 16% et en croissance organique de 5,4%. Très belle dynamique de chiffre d'affaires, sensiblement supérieure à celle du marché. Et une dynamique, et c'est un sujet de satisfaction, qui est portée à la fois par la planète, qui est en croissance de 4%, grâce notamment à la facturation des grands contrats d'infogérance que nous avons signés par le passé, mais également au gain de nouveaux contrats par l'équipe que Laurent Roudil, que vous avez rencontré en septembre dernier, que Laurent a constitué autour de lui au cours des 15 derniers mois, donc une belle dynamique sur la planète. Dynamique également dans nos satellites qui ont une croissance organique qui est près de deux fois supérieure à celle de la planète. Donc des satellites de services qui continuent à jouer leur rôle d'accélérateur de la croissance de cette activité. Le résultat opérationnel courant, léger retrait. Je vous donnerai les mêmes explications que celles qu'on a été amené à vous donner en septembre dernier. C'est-à-dire que cette rentabilité, elle est impactée par deux choses. La montée en puissance de ces grands contrats d'infogérance dont nous vous parlons depuis quelques temps et également les plans de transformation de l'activité de service dont Laurent vous avait parlé longuement en septembre dernier. Product and Solution, alors ça c'est de là que je disais à Philippe Gouillou qui dirige cette activité en France, c'est de la confiture parce que tous les ans les chiffres sont très positifs. La croissance organique est une nouvelle fois très supérieure au marché. On gagne des parts de marché, donc 9,4%. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui a su faire évoluer sa façon de travailler. EPS aujourd'hui, ce n'est plus un simple distributeur, c'est une société qui est capable d'orchestrer des solutions ou de vendre des solutions orchestrées. On met les mots dans le sens qui vous convient le mieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, quand on vend des tablettes à des étudiants, des lycéens ou des collégiens, mais on ne vend pas uniquement des tablettes, on les masterise, On intègre du contenu qui correspond à chacune des classes. On met en place une logistique pointue pour pouvoir les délivrer sur des périodes très courtes au moment de la rentrée des classes. On met en place également des solutions de financement avec des partenaires, du SAV. Donc, on n'est plus sur de la vente de produits simples, mais on est sur vraiment des solutions orchestrées beaucoup plus complexes et qui permettent... Philippe me fait un sourire, elle a l'air satisfaite de ce que je viens de dire de son activité. Je te remercie, Philippe. Donc, ils vont bien au-delà de la simple distribution des produits. Dynamique également, parce qu'on a pris des positions sur des segments qui sont porteurs. Et l'exemple qu'a choisi de vous présenter Jean-Louis en témoigne, ce sont ces écrans digitaux qu'on retrouve partout dans les organisations, dans les lieux publics, etc., sur lesquels on a pris des positions en France, mais pas seulement, en Espagne et aux Pays-Bas aussi, et qui sont des segments extrêmement dynamiques. La rentabilité est également bonne facture cette année avec 21 millions d'euros de résultats opérationnels courants. Très rapidement, le compte de résultats dont je vous ai parlé du chiffre d'affaires, je vous ai également parlé du résultat opérationnel courant. Vous voyez que les éléments non récurrents sont en ligne avec nos attentes et avec les vôtres. Un peu moins de 30 millions d'euros, 28 millions d'euros. Elles portent principalement sur le plan de transformation de nos activités de services. Pour l'année prochaine, les services continueront à se transformer, donc il faut s'attendre à avoir encore des exceptionnels, mais dans une proportion sensiblement moindre, d'environ la moitié. Et elle s'explique donc par la poursuite de la transformation des services et également par le plan d'économie dont on vous a déjà parlé, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Le résultat financier, 16 millions d'euros, donc en augmentation de 3,5 millions d'euros. Ça s'explique quasiment exclusivement par l'émission de l'Océane en Q2 2018. Je vous le rappelle, on a émis une Océane 200 millions d'euros, horizon 2023 avec un coupon de 0,5%. C'est une Océane qui a pesé sur les comptes à hauteur de 3,8 millions d'euros cette année. Donc, ça explique l'intégralité de l'écart. Ce qui est important, c'est que sur ces 3,8 millions d'euros, il y a 2,8 millions d'euros qui sont une simple charge comptable non cash et qui représentent l'amortissement de la partie equity de cet emprunt convertible. L'impôt, 21,2 millions d'euros avec un taux effectif d'impôt qui est stable par rapport à l'année dernière, qui est d'un peu moins de 25%. Il était d'un peu plus de 25% l'année dernière. La dette nette, maintenant, est les flux de trésorerie de l'année 2018. Donc, vous voyez une dette financière nette de 252 millions d'euros en baisse par rapport à fin 2017, qui était de 279 millions d'euros, grâce en particulier à une forte génération de cash flow, 270 millions d'euros. Je vous le disais tout à l'heure, c'est 60% du résultat opérationnel courant, donc c'est un taux qui est très élevé. Ça s'explique par un certain nombre d'actions qui ont été menées, d'une part sur le besoin de fonds de roulement, vous le voyez, qui s'est amélioré de 89 millions d'euros. C'est une très belle performance. On pourra revenir dans le détail si vous voulez, mais on a travaillé sur tous les postes du besoin de fonds de roulement. On a travaillé sur le fait de refinancer plus rapidement nos contrats de location. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, notamment en Italie, par exemple. Également, le fait de refinancer nos valeurs résiduelles. Les valeurs résiduelles refinancées ont augmenté de 20 millions d'euros cette année et contribuent donc à ces 70 millions d'euros de free cash flow. Donc, un certain nombre de mesures sur le working cap qui contribuent à cette très belle performance. On a également travaillé sur les investissements sur l'activité de location qui sont de 39 millions d'euros. La contribution au chiffre d'affaires de DFL cette année est de 89 millions d'euros pour un impact sur la dette nette qui est seulement de 39 millions d'euros. Ce qu'on constate, c'est que c'est ce qu'on vous avait annoncé, c'est-à-dire qu'on réussit aujourd'hui à refinancer un certain nombre de nos contrats qui sont portés, qu'on a dû dans un premier temps porter sur cette société de refinancement interne. Et Mathilde Saint-Paul, qui est dans la salle, parce que je l'ai vue tout à l'heure, et qui dirige cette activité-là, a fait un gros travail avec vous cette année pour refinancer auprès de vous un certain nombre de contrats importants, ce qui explique cet impact sur la dette nette limitée eu égard au chiffre d'affaires de DFL sur l'année. Donc, très belle performance de free cash flow cette année. On a encore des marges de manœuvre pour l'année prochaine, c'est-à-dire que le working cap, évidemment, on ne l'améliorera pas de 90 millions d'euros l'année prochaine, mais on estime qu'on a encore des marges de progression. On continuera à travailler également sur les investissements qui sont faits dans notre activité TMF. Julie sera peut-être amenée à vous en reparler tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en œuvre pour pouvoir continuer à travailler sur des contrats innovants, sur des nouveaux types d'actifs, sans que cela pèse sur notre bilan. Également, les non-récurrents, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'attend à ce qu'ils soient moins importants l'année prochaine. Donc, ça aura un impact favorable. Et on travaille, on challenge beaucoup les équipes sur le montant des CAPEX. Donc un certain nombre de leviers qui sont encore devant nous pour poursuivre cette belle dynamique que nous constatons cette année. Voilà simplement encore un mot sur les flux de l'année. Vous voyez 28 millions d'euros. Alors, ce n'est pas des dividendes, c'est des remboursements de primes d'émission. Mais ça ne rentrait pas. Donc, on a parlé de dividendes. C'est un peu la même philosophie. Et puis, un programme de rachat d'actions propres, 12 millions d'euros. Donc, au global, un retour vers l'actionnaire d'une quarantaine de millions d'euros sur l'exercice. La dette nette, donc 252 millions d'euros. Ça me fait plaisir de le répéter, en baisse par rapport à fin 2017. Maîtriser 1,6 fois les EBITDA. Un élément important, vous le voyez, c'est qu'elle est entièrement désintermédiée. L'émission de l'Océane y contribue. Océane qui nous a permis aussi de repousser, je dirais, les échéances de la dette. Aujourd'hui, la prochaine échéance est 45 millions d'euros en 2020. On a 130 millions en 2021. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu de temps pour préparer ces prochaines échéances de remboursement. Donc, une dette qui est complètement désintermédiée. Ce qui est important également de souligner, c'est qu'on a aujourd'hui un portefeuille de location qui donne lieu à des paiements de loyer à Econocom qui est de 242 millions d'euros et qui impacte cette dette financière nette. Donc, 246 millions d'euros, pardon. Donc, sur ces 256 millions d'euros de dette, on en a 246 qui sont adossés à des contrats de location. Donc, si on isolait la dette corporate non adossée à des flux entrants, elle est moins de 10 millions d'euros, donc elle est extrêmement faible. Je pense que c'est important de faire ce distinguo parce que c'est évidemment deux dettes qui sont de nature complètement différente. La dette adossée à des contrats de location s'éteignant d'elle-même. Le bilan, je vais passer très rapidement parce que je pense qu'on a déjà parlé des principaux agrégats. Les goodwill augmentent d'une trentaine de millions d'euros. C'est lié aux acquisitions qui ont été faites pendant l'année. Bruno vous en reparlera tout à l'heure. Les fonds propres qui augmentent de 11 millions d'euros, donc principalement l'effet du résultat qui est compensé partiellement par le retour aux actionnaires. Et puis, vous voyez au passif, les valeurs résiduelles donc qui augmentent de 20 millions d'euros, qui sont ces valeurs résiduelles qui sont refinancées auprès de nos partenaires refinanceurs. Alors là, maintenant, il y a un sujet j'espère que je ne vous ai pas endormi parce que j'ai deux slides un peu techniques sur les normes IFRS 16. C'est un incontournable. Deux slides, pourquoi ? Parce qu'on est concerné en fait à deux titres, à la fois en tant que preneur et en tant que bailleur. En tant que preneur, on l'est comme la plupart de vos clients, c'est-à-dire que vous savez que maintenant on est amené à capitaliser un certain nombre d'engagements long terme et notamment nos baux et nos contrats de location de voitures. Et on sera amené à les amortir sur la durée de ces contrats et à constater des charges financières. Alors, s'il faut retenir deux impacts pour aller vite, l'impact sur le résultat, que ce soit opérationnel courant ou le résultat net, est marginal. Donc, les deux impacts à retenir, c'est un impact sur la dette financière qui est de 71 millions d'euros et un impact sur l'EBITDA favorable qui est d'une vingtaine de millions d'euros. L'IFRS 16 donc, nous concerne aussi en tant que bailleur, donc notre activité de location est concernée, alors à deux titres, au titre de notre relation avec nos clients et au titre de la façon dont nous comptabilisons nos affaires. Alors, sur la relation avec notre client et donc notre business, on estime que l'impact est marginal. Pourquoi ? Il est même quasiment neutre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, nos grands clients sont déjà en norme IFRS et ont déjà, sauf exception, nos actifs sur leur bilan, donc pour eux, ça ne fait aucune différence. Après, on a un certain nombre d'acteurs, de clients qui ne sont pas en norme IFRS et qui ne seront pas non plus touchés. Donc, la part de notre chiffre d'affaires qui pourrait être concerné, c'est moins de 10% aujourd'hui. Et il se trouve qu'on va bénéficier d'une exception qui est que les contrats de location qui sont sur des actifs dont la valeur individuelle est inférieure à 5 000 euros, ce qui est la grande majorité des actifs dans le domaine de l'IT et du digital, n'est pas considéré par cette évolution des normes. Donc, globalement, nos clients ne sont pas concernés. Ça n'a pas d'impact défavorable sur notre business. Et je dirais même que les plus agressifs d'entre nous pensent qu'il peut y avoir une opportunité si, pour certains autres actifs, nos clients sont obligés de les capitaliser et de les mettre à leur bilan, ils pourraient avoir envie de se mettre à louer leurs actifs digitaux et leurs actifs IT. Donc, pourquoi pas un impact plutôt favorable. Maintenant, la façon dont l'impact des normes IFRS 16, donc qui entre en vigueur au 1er janvier, sur la comptabilisation de nos contrats de location. Elle est là également limitée, parce qu'elle est limitée aux contrats donc de sell and lease back pur, qui seront désormais comptabilisés non pas en chiffre d'affaires, mais nous comptabiliserons en produits uniquement la marge de ces affaires. Ça aura donc un impact sur notre chiffre d'affaires d'une centaine de millions d'euros. En tout cas, c'est ce qu'on estime aujourd'hui. Hein. C'est les prévisions pour demain, donc ce ne sont que des estimations. Et on estime que ça réduira d'une centaine de millions d'euros notre chiffre d'affaires de cette activité location. Le deuxième impact, c'est que ces contrats de sell and lease back, dès lors qu'ils sont portés sur notre bilan, nous aurons à étaler la marge sur la durée des contrats. Donc là encore, c'est un nombre de cas qui est limité. On estime, donc c'est qu'une question de timing, hein, ce n'est pas une marge qui se perd, c'est simplement une marge qui s'étale. Et on estime que l'impact sur le ROC 2019 devrait être de l'ordre de 3 millions d'euros. Dernière slide, traditionnelle également, qui est le montant, non pas du dividende, donc, mais du remboursement de prime d'émission que nous proposerons à l'Assemblée. Donc, c'est une décision qui a été prise par le conseil d'administration hier de proposer un remboursement de prime d'émission de 12 centimes par action, donc stable par rapport à l'année dernière, malgré la baisse des résultats. Donc, stable, c'est évidemment un élément qui témoigne de la confiance de nos administrateurs et du groupe dans les perspectives du groupe et en particulier dans sa capacité à générer de la trésorerie. Merci beaucoup.
C'est un talent quand même de naviguer dans les chiffres comme ça. Alors, on va rentrer dans une autre séquence de la présentation qui va vous parler beaucoup de nos métiers, de là où on va aller et donc de nos boosters ou nos growth drivers, nos moteurs de croissance. Donc, le premier d'entre eux, c'est évidemment l'activité TMF. Et c'est Julie qui va vous présenter cette partie. Donc, Julie va se présenter. C'est une petite nouvelle sur scène. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle est directrice exécutive du groupe. Elle est en charge de l'activité TMF. Elle en est responsable. Et elle est responsable aussi de nos pays hors France. Julie, à toi.
Alors, bonjour à tous. Et merci beaucoup à Bruno et à Jean-Louis pour l'introduction. Donc, moi, je suis ravie de prendre la parole devant vous aujourd'hui et de me présenter. Donc, je m'appelle Julie Verlingue. J'ai rejoint le groupe Econocom au mois de mars l'année dernière. Précédemment, j'ai passé 12 années au sein du cabinet de conseil McKinsey. J'étais partenaire depuis 3 ans au sein du groupe Institutions Financières à Paris. Quand j'ai rencontré Robert Bouchard, c'était à l'automne 2017, Robert m'a fait part en fait du projet de reprise en fait de l'entreprise familiale. J'ai trouvé que le projet était très intéressant, que l'entreprise était très intéressante, et j'ai décidé de sauter le pas au mois de mars l'année dernière en rejoignant Econocom à l'origine pour être en charge de l'international. J'y viens à l'origine puisque ça ne vous a pas échappé. L'année 2018 a été une année extrêmement riche en événements pour le groupe Econocom. Et j'ai eu l'opportunité au cours de cette année de passer beaucoup de temps dans les pays, à rencontrer les équipes, à me rendre compte de la richesse du groupe sur l'ensemble des géographies, puisqu'on est présent dans 19 géographies aujourd'hui. Et au cours de cette année, et avec toutes les vicissitudes que l'on a pu rencontrer, j'ai eu l'opportunité à un certain nombre de reprises de rencontrer Jean-Louis. Et on a eu une rencontre au mois de juin qui était très intéressante. C'était, je pense, une de nos premières discussions ensemble. Et je lui ai dit, Jean-Louis, moi, je pense que dans le groupe que vous avez, dans le portefeuille très, très riche d'activités, de services, de distribution que vous pouvez avoir, il y a une activité qui me paraît extrêmement intéressante et prometteuse parce que vous la faites depuis 45 ans. Vous avez tout l'écosystème en fait à votre disposition pour y réussir et pour continuer à y investir. Et cette activité, c'est TMF. Alors, ensuite, il s'est encore passé quelques mois, puisque Jean-Louis et Jean-Philippe sont revenus courant du mois d'octobre. Et lors de ce retour, une des premières conversations que nous avons eues, ça a été sur le sujet de TMF. Et j'ai demandé à Jean-Louis, qui a accepté, de me confier les rênes de l'ensemble de l'activité TMF sur l'ensemble des géographies, à savoir, du coup, l'international, dont je m'occupais déjà, la France, TMF France, et l'ensemble des fonctions qui composent TMF, que j'ai pu reprendre, notamment le funding, que j'ai pu reprendre à la fin de l'année dernière. Donc, je sais qu'on a un certain nombre de partenaires funders dans la salle. Je serai ravie de vous rencontrer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, je voulais juste vous dire, en fait, que je suis extrêmement enthousiaste sur le fait d'avoir repris cette activité et extrêmement optimiste sur l'avenir de cette activité. Et du coup, je voulais partager un peu avec vous ce que j'ai vu en 12 mois chez Econocom, sans oublier les très belles activités que nous avons également en distribution et services. Mais en tout cas, ce matin, je voulais passer un temps significatif à vous parler de TMF, notamment parce que les résultats 2018 étant ce qu'ils sont, je pense que c'est intéressant, en fait, de faire un point d'étape. Je sais que nous sommes une société belge, je vais employer donc une expression belge, de remettre l'église au milieu du village pour remettre en perspective les résultats 2018 dans un trend historique passé, mais également avec des perspectives d'avenir qui me paraissent très intéressantes. Alors, je crois que vous avez vu assez ma photo. On va passer à autre chose. Je vais du coup reprendre un peu des chiffres. On ne se refait pas. La maison d'où je viens précédemment aime beaucoup les chiffres. En reprenant la perspective historique, notamment sur le chiffre d'affaires de TMF. Et quand on regarde la perspective historique qui commence en 2008, donc pré-acquisition de CS, Econocom réalise un chiffre d'affaires dans l'activité TMF qui est de 400 millions d'euros. L'année dernière, en 2018, on est à 1,4 milliard. Et aujourd'hui, TMF représente la moitié du groupe Econocom, avec une croissance annuelle moyenne de 14%, ce qui est très largement au-dessus des croissances marchées que l'on peut observer sur tout ce qui est location de matériel informatique. Quand on regarde une perspective un peu plus courte, on reste sur des croissances qui sont entre 6 et 7%, si je ne me trompe pas, sur les 3-4 dernières années. En l'occurrence, on est là encore très largement au-dessus de la moyenne marché sur l'IT financing, dont, si mes chiffres sont exacts, qui enregistre en Europe occidentale plutôt une croissance de l'ordre de 2-3%. Si je continue sur les chiffres, on peut vous dire qu'aujourd'hui, on a un portefeuille qui représente à peu près 6 milliards d'euros en fait de valeur, avec un outstanding à 2,9. Comme le disait Galiane tout à l'heure, il y en a 92% qui sont refinancés. On a un modèle qui est donc asset light. On a 7 millions d'actifs gérés. Et de ces 7 millions d'actifs, il y a déjà 15% de revenus en 2018 qui sont sur du non-IT. Et je pense que c'est un point important, puisque c'est un point qui faisait partie des axes qui avaient été développés lors du plan stratégique en 2017. Quand on regarde les croissances marchés, il y a un point qui est très intéressant, qui est que sur notre métier historique, qui est donc le financement d'assets IT, comme je vous disais, on était sur des croissances marchés historiques à 2-3%. Ce que les chiffres nous montrent, c'est que dans la perspective future, a priori, sur vraiment ce qui concerne notre core business, on voit qu'on est sur des croissances qui vont être aux alentours de 1-3% selon les géographies. On voit en revanche que tout ce qui est location de matériel hors IT a des croissances marchés qui sont beaucoup plus élevées, de l'ordre de 5% sur les géographies sur lesquelles on opère. Alors, chez Econocom, on est entreprenant, on est innovant, et on voit cela comme une opportunité très forte sur laquelle, du coup, nous sommes en train de travailler de façon à accélérer cette tendance et ce flux de business sur l'ensemble de nos géographies. Alors, je voulais revenir quand même sur cette richesse que moi, je trouve très intéressante chez Econocom, qui est l'empreinte géographique que nous avons. Aujourd'hui, chez Econocom, nous sommes présents physiquement sur 18 pays en TMF. C'est le métier du groupe qui a l'empreinte géographique la plus large. Alors, ce 18, comme vous le voyez, il se décompose de la façon suivante. Il y a 30% du chiffre d'affaires aujourd'hui qui est fait en France. La deuxième plus grande géographie du groupe sur ce métier, c'est l'Italie, qui représente 22% de notre chiffre d'affaires. L'Espagne, dont Angel Benguigui est le représentant, est là aujourd'hui, qui représente 12% avec des très belles croissances. Donc, nous avons également la Belgique, une géographie historique du groupe, qui représente 5% du chiffre d'affaires. Nous avons également trois géographies sur lesquelles nous investissons beaucoup, qui sont les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc ça, ce sont les géographies, je dirais, où nous avons à la fois une activité TMF qui est significative et également d'autres métiers du groupe, que ce soit les métiers de service ou les métiers de distribution. Au-delà de ces chiffres, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons la capacité d'opérer, grâce à nos partenaires financeurs, sur 49 géographies. Donc, la beauté de ce métier, c'est qu'on peut l'opérer en ayant à la fois des équipements locaux, mais également depuis la France, grâce à notre écosystème, sur un nombre beaucoup plus élevé de géographies. Et c'est clairement quelque chose que nous souhaitons accélérer dans les prochaines années. Nous souhaitons accompagner nos grands clients, notamment français, dans leurs projets digitaux à l'international. Et aujourd'hui, étant donné l'empreinte géographique des grands clients français, notamment du CAC 40, mais également au-delà, il est fondamental que nous puissions réaliser cet accompagnement largement au-delà des 19 géographies ou 18 géographies qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, parmi les raisons qui font que nous sommes très optimistes sur l'avenir du métier TMF et du métier location au financement au sein du groupe Econocom, alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, on pense que, enfin, et on observe qu'il y a une tendance de fond qui va de la possession à l'usage. Et ça, on le voit à la fois dans nos métiers en fait, d'IT traditionnels, comme le disait Jean-Louis, on le voit également sur un certain nombre de dispositifs, d'assets qui vont bien au-delà. Et il y a une grande valeur, je pense, du groupe Econocom, qui est une valeur d'innovation, une valeur d'entrepreneuriat. Et en allant dans les pays au cours de ces 12 derniers mois, ce qui m'a frappé, c'est la capacité d'innovation de nos équipes. Quand on va en Italie, par exemple, on a développé une compétence sur tout ce qui est smart building, en modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui les offres orchestrées, donc la capacité à fournir l'architecture, l'asset, le financement, le service pour pouvoir mener à bien les projets digitaux. En Espagne, on a mené une acquisition l'année dernière d'une petite société de marketing digital qui s'appelle Altabox, qui est venue complémenter l'offre que nous pouvons avoir en local et qui nous permet d'accompagner les grands retailers dans la transformation de leurs magasins, dans la transformation de l'expérience client, depuis la définition du parcours client jusqu'à l'exécution, la mise en œuvre de ces transformations digitales de points de vente. Je vous donne deux exemples, mais en fait, je sais que vous suivez en fait Econocom depuis longtemps. L'exemple du Chirec, les transformations, les digitalisations de blocs opératoires, c'est un autre exemple. L'exemple de Skipol, c'est un autre exemple. Et on a une capacité dans le groupe à, en travaillant sur des relations de long terme avec nos clients, établir des relations de confiance qui nous permettent de les accompagner, de leur proposer, de les accompagner dans ce type d'offres. Ce qui ne veut pas dire que nous laissons tomber notre métier traditionnel, que je pense nous faisons bien. En tout cas, c'est ce que les clients me disent et puis c'est ce que je peux observer en faisant encore une fois le tour des pays. Il y a dans ce groupe une richesse, un talent, que ce soit au niveau des équipes commerciales, au niveau des équipes qui s'occupent avec vous, partenaires, du funding, que ce soit dans les opérations où il y a un savoir-faire accumulé qui est tout à fait remarquable, et également dans les compétences de la gestion de la fin de vie des matériels, du recyclage, sur tout ce qui est remarketing, dont je pense on peut être très fiers. En tout cas, moi, j'en suis très fière. On a également une échelle européenne aujourd'hui, donc comme je le partageais avec vous, et dans notre capacité, qui nous donne une capacité à opérer des projets à l'échelle pour nos clients. Et on a donc ce modèle asset light qu'on est en train de retravailler, d'enrichir, de façon à pouvoir accompagner cette créativité et cette innovation permanente du type de projet que nous sommes en train de financer. Alors, comme je vous le disais, on a commencé à... Enfin, j'ai repris l'ensemble de la ligne métier TMF à la fin du mois de novembre. Nous avons créé, dans la lignée de ce qu'a souhaité mettre en œuvre Jean-Louis au niveau du groupe, une équipe de direction avec l'ensemble des patrons d'activité TMF. Et nous sommes en train de travailler à un plan d'accélération de ce métier. Alors, ce plan d'accélération, on vous en parlera ultérieurement, puisque nous sommes en train de brainstormer dessus. Donc, je ne vais pas m'avancer sur un certain nombre de choses qui ne sont pas encore totalement finalisées. Néanmoins, je peux commencer à vous en dire certaines choses. Déjà, en fait, nous avons décidé de se refocaliser sur un certain nombre de nos marchés historiques, qui sont les grands marchés d'aujourd'hui, sur lesquels on voit qu'on a une masse critique en termes de compétences, en termes de base client, mais encore énormément de potentiel pour croître. Et du coup, ça, c'est le premier axe, c'est de se dire, on est présent sur 19 géographies, on peut opérer sur 49 aujourd'hui. En revanche, back to basics, il nous faut continuer à développer notre masse critique là où nous sommes déjà puissants. Il y a ensuite un deuxième axe, dont parlait Jean-Louis un peu plus tôt, qui est le fait de développer les forces de vente. Je pense que dans l'ADN d'Econocom, il y a cet ADN d'entrepreneuriat, cet ADN d'aimer faire des deals, d'aimer faire du business. Et pour réussir à faire ça, on a besoin de continuer à renforcer nos forces de vente, de façon à faire venir de nouveaux talents, de façon à faire venir des gens qui ont des expertises sectorielles qui vont nous permettre de délivrer les différents projets sur lesquels nous souhaitons nous positionner. On veut également continuer à travailler sur l'optimisation du on-book financing. Alors, je pense que donc Galiane en a beaucoup parlé précédemment, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Je pense que EDFL et notre captive de financement a été un outil extraordinaire justement pour pouvoir accompagner notre développement, notre innovation sur l'ensemble des projets qu'on a pu développer. Je pense que on doit pouvoir faire encore plus et différemment. C'est-à-dire que on s'est dit que nos partenaires funders traditionnels, donc vous êtes des partenaires importants, on veut continuer à travailler de façon significative avec vous, on veut continuer à pouvoir financer via notre captive un certain nombre de projets innovants et on veut également pouvoir continuer à développer notre activité grâce à un certain nombre d'innovations en matière de funding. Nous sommes donc en train de regarder un certain nombre de projets avec d'ailleurs certains d'entre vous de SPV, et là encore on pourra vous en dire un peu plus dans les prochains mois. Et puis le dernier, c'est la capacité à développer notre expertise en dehors de l'IT. On le fait déjà. Comme je vous le disais, on a 15% de nos revenus en 2018 qui sont issus des assets hors IT en financement. Et c'est quelque chose que nous souhaitons développer via notamment les offres orchestrées dans les prochaines années. Voilà. Et on reviendra vers vous à l'automne avec plus d'éléments sur ce plan. Je vous remercie beaucoup.
Merci Julie. Donc j'espère que vous appréciez, en tous les cas c'est notre objectif pendant cette session, de vous faire découvrir un peu mieux ce qui est Econocom. Comme le disait Jean-Louis, on parle beaucoup de chiffres dans ces réunions, mais on ne parle pas beaucoup de nous. Et là on essaye de vous faire vivre un petit peu à la fois le nouveau modèle organisationnel, sa dynamique de direction, et puis ses métiers, et puis son futur. Donc je vais continuer dans la même lignée. Et encore une fois, merci Julie de nous avoir fait, d'avoir un autre éclairage sur ce métier, puisque comme tu viens d'arriver, enfin un an c'est très peu, tu nous donnes en interne, je dirais, beaucoup d'insights sur ce vieux métier qui a encore beaucoup d'avenir. Alors moi je vais vous parler des satellites, et alors justement je voudrais essayer de vous expliquer un peu mieux ce que c'est un satellite, parce qu'on parle de planète, on parle de satellite, ça c'est la métaphore qu'on utilise pour piloter et vous expliquer notre modèle, mais je ne suis pas sûr qu'on soit très très efficace souvent, donc je vais réessayer de vous donner un peu de là aussi d'insight. Un satellite, il y en a 24 hein, dans la galaxie, il y a 24 entreprises. Ce n'est pas une lubie d'entrepreneurs, un caprice onéreux pour faire partie du grand bain de l'open innovation dans les start-up. Ce n'est pas du tout ça. Un satellite, ou les satellites, en tous les cas, notre belle famille de satellites, et vous avez des dirigeants de satellites dans cette salle. D'abord, quelques chiffres. C'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est loin quand même de la start-up et de la lubie. C'est un quart de la rentabilité opérationnelle du groupe, and more to come. Et c'est 24 marques bien établies sur des secteurs. L'objectif de cette stratégie qu'on a démarrée dès 2014, hein, Et vous voyez l'historique, je ne vais pas vous le commenter, il est, je pense, assez self-explanatory. C'est quoi ? C'est d'abord que les satellites soient des accélérateurs de croissance rentable. Je pense que les chiffres... alors, on peut penser que ça ne va pas assez vite. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on pense que ça ne va pas assez vite. Je vous rassure là-dessus. Mais c'est quand même un objectif qui est atteint. Un satellite, ça doit être aussi un générateur de différenciation compétitive en venant enrichir des offres, les offres de nos métiers historiques. Et ça le fait aujourd'hui, ça commence à le faire, que ce soit sur le métier du service, mais c'est plus évident, que ce soit sur le métier du financement, que ce soit sur le métier de product and solution, tel qu'il a été brillamment redéfini par Galliane tout à l'heure et qui est loin du métier de la distribution, ça fonctionne. Vous avez vu BIS tout à l'heure. BIS est un très beau satellite. Sans la planète, on n'a pas Skripal, sans les métiers historiques. Mais sans BIS, on n'a pas Skripal non plus. Ça marche aussi chez un grand constructeur automobile européen qu'on ne peut pas nommer, mais qui est grâce à un satellite qui s'appelle Alterway et aux métiers de la planète. Je vois les patrons français opiner du chef. On n'a pas ce type de grand contrat. Et c'est vrai aussi avec un très beau satellite, je n'ai pas vu Arnaud à Fergan, qui s'appelle Rayonnance, qui gagne des très, très beaux contrats, en particulier et en association avec la LOC. C'est ça aussi un satellite, donc un créateur d'offres. Et last but not least, c'est aussi l'incarnation, le renforcement, l'enrichissement de la culture entrepreneuriale du groupe. Parce qu'à la tête de ces satellites, il y a des entrepreneurs qui conservent une bonne partie du capital, une partie minoritaire mais très significative, et on a des dirigeants honneur. Et ça, je peux vous dire que ça change un petit peu la manière dont les satellites et les activités sont pilotées. Est-ce qu'on a tout bien fait ? La réponse est non, je vous rassure, on est normaux. C'est-à-dire que sur les 24 satellites, il y en a peut-être 2, 3, 4 qui vont nous quitter dans les 18 ou 24 mois. Et c'est bien normal. Sur un chiffre aussi impressionnant, je le trouve même d'ailleurs assez faible. Pourquoi certains vont nous quitter et évidemment nous quitter dans de bonnes conditions et de bonnes relations? Parce qu'au bout de 2-3 ans, on s'aperçoit que finalement, les synergies ne sont pas là. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un caprice, un satellite. Il faut que ça délivre de la synergie et du résultat et de la rentabilité. Ou alors, parce que les avantages compétitifs du métier qu'il représente ne sont plus présents, ou en tous les cas, dans la galaxie et dans l'environnement Econocom. Donc, il n'est pas impossible, il est même probable que l'analyse des portefeuilles que nous faisons et que nous allons un petit peu accélérer nous amène à, nous séparer de très peu de satellites, mais de faire ce qu'on doit faire et de garder évidemment l'immense majorité de ces talents parce que ça fonctionne bien, les résultats sont au rendez-vous. Donc on est content du résultat, on va faire notre homework de revue de portefeuille et on va accélérer les synergies et les satellites vont délivrer de plus en plus de résultats et de différenciation compétitive, j'y insiste. Là, je vais aller très vite. Je vous invite simplement avec la slide papier à aller voir ces marques. Prenez, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, allez voir ces belles marques. Je ne veux pas faire de malheureux, mais allez voir simplement Infini et Digital Security. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Digital Security, je vais prendre cet exemple. On a, avec Jean-Louis, décidé de prêter un petit peu d'argent à une équipe de spécialistes de la sécurité et de hackers. Aujourd'hui, Digital Security, c'est 220 ingénieurs de cybersécurité. C'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est le premier spécialiste européen de la sécurité, de la cybersécurité des objets connectés. Donc, allez voir ça et vous verrez, on est loin de la start-up et de la lubie de l'open innovation. Alors, trois exemples, ils ont été évoqués, trois exemples de succès en 2018. Deux d'entre eux ont été, je pense, ou au moins un d'entre eux a été cité. Alors, on en a pris un par pays, évidemment, pour être un peu œcuménique et européen. Donc, le premier est en Italie. Et d'ailleurs, c'est une acquisition de 2018, BDF. qui se rapproche de, d'un satellite qu'on avait déjà qui s'appelle Assistel. Qu'est-ce que c'est BDF ? Ce sont des outils de travail des agents bancaires et dans l'assurance. C'est-à-dire qu'entre Assistel et BDF, vous avez le leader en Italie de tous les outils qui font que un collaborateur d'une grande banque ou d'une grande compagnie d'assurance, je dirais, fonctionne bien, a une bonne productivité, une bonne qualité de travail. C'est une petite centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Julie en parlait. Et Angel Benguigui est au premier rang, donc en Espagne. On est très, très heureux d'avoir investi dans Altabox. Altabox, c'est une société assez pointue qui délivre des solutions, du conseil, du hard, du soft, du contenu pour améliorer l'expérience d'achat de vous et moi dans des boutiques. Jean-Louis parlait d'Orange, il travaille aussi pour Zara, il travaille pour bien d'autres, voilà. Et ils ont, je dirais, le talent d'avoir fédéré aussi à l'intérieur de la galaxie Econocom d'autres investissements qu'on avait déjà faits. Et ça, ça fait une offre, je dirais, qu'on appelle Econocom Retail, qui est extrêmement efficace et qu'on vous allez voir déployer dans un certain nombre d'industries dans les années qui viennent, ou dans les mois, en tous les cas, on l'espère. Au-delà de l'Espagne, au-delà d'Orange, au-delà de Zara, vous allez voir que ça peut aussi s'appliquer à de la construction et automobile, à de l'agence bancaire et à bien d'autres secteurs d'activité. Donc, welcome to the club. On est super content d'avoir Altabox. Là aussi, allez voir le site en espagnol. Il est super bien fait. Et j'ai un petit film. J'ai un petit film d'ailleurs, j'allais l'oublier dans mon enthousiasme à passer au suivant. Donc regardez un petit peu ce que ça peut donner, je dirais, la capacité de génération de satellites au niveau des offres à l'intérieur du groupe Econocom. Donc il y a de moins en moins de chances que vous échappiez au digital et à Econocom derrière ces moments de votre vie, je dirais, privée, que ce soit en achetant une voiture, une paire de lunettes, un pantalon ou autre chose. Troisième exemple. Non, bon, pas celui-là. J'ai pas le droit à celui-là. Troisième exemple, Hexaprobe Acier Net. Alors, c'est aussi assez magnifique. Alors ça, c'est des gens qui travaillent beaucoup dans la sécurité des réseaux à très, très haut débit et à très, très haut volume. Donc, ce sont des réseaux et des data centers qui sont utilisés par les opérateurs, par exemple, médias de communication. Vous les connaissez tous, je ne veux pas faire de la pub, mais on s'abonne quand même régulièrement à des choses qui nous permettent de regarder des séries ou des films. Bah, derrière, il y a des réseaux, il faut que ça soit un peu sécurisé, qu'il y a des data centers. Et bah, souvent, quand il y a du matériel Cisco, il y a Hexaprobe Acier Net. Et là aussi, on est très, très content de ce genre d'acquisitions qui sont vraiment des marques extrêmement fortes, peu connues, mais extrêmement fortes dans leur secteur. Voilà. Donc on est assez content de ce petit système là que vous voyez ici. Donc c'est un peu apaisant avant d'arriver à l'Outlook de 2019. On est assez content de ce système parce que c'est un système qui fonctionne entre ces sociétés qui sont un peu aux avant-postes du digital et puis des nouveaux usages et puis nos métiers historiques. Et alors donc on s'est dit qu'il en manquait un. Et donc, c'est le petit dernier qui est en train d'être créé, qui s'appelle 58. Je vous dirai pourquoi il s'appelle 58, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la marque de conseil en transformation digitale dont nous vous avions parlé déjà pour ceux qui étaient avec nous lors des épisodes précédents. Je vous rappelle l'objectif hein, de créer une marque de conseil en transfo digital qui fait partie de la famille, donc qui a la vocation, là aussi, à générer des synergies, à générer un surcroît de compétitivité et à générer des nouvelles offres. Donc, c'est de saisir les opportunités, et elles sont nombreuses, de projets de transformation digitale encore un peu plus en amont de nos contacts actuels chez nos clients. L'objectif, c'est donc, disons, de relever un peu le niveau de nos interlocuteurs, même s'il est déjà très élevé et qu'il évolue rapidement. C'est de participer donc à la montée en gamme des offres de la galaxie Econocom. Et puis, c'est d'être un vecteur d'image dans le marché de la transformation digitale. Alors, pourquoi est-on crédible et pourquoi mettons de l'argent d'Econocom dans ce nouveau satellite? Parce qu'on pense qu'on peut apporter un regard aussi différenciant et on peut apporter un input différenciant quand des directions générales ou des directions métiers font, je dirais, décident de projets de transformation digitale dans leur périmètre. Alors, c'est quoi cette différence par rapport à nos futurs concurrents qui sont nombreux, bien établis et souvent brillants et souvent très bons? C'est d'abord le fait que nous, on a vraiment une compétence de terrain. On est très hands-on. Julie parlait de 7 millions d'assets gérés, mais ça veut dire que tous les jours, on analyse, je dirais, des centaines de milliers, voire des millions de contacts entre des êtres humains et des objets digitaux. Et ça a beaucoup de valeur quand on analyse cette donnée. Et on est en train de la capturer et on est en train de l'analyser pour aider les décideurs à bien définir leur projet de transformation digitale pour que ça coûte moins cher, pour que ça soit mieux utilisé, mieux adopté, et éviter le gaspillage digital des projets et de l'argent qu'on met dans ces projets qui ne sont pas utilisés, donc des pauvres ROI. Bon, les services, on sait en faire aussi bien que les autres et parfois même, on pense de temps en temps, excès d'arrogance un peu mieux que les autres. On sait très très bien comment financer les grands projets de transformation digitale et en particulier cette méga-traîne qui consiste à dire « on paie à l'usage ». Et donc, pouvoir conseiller des patrons sur des projets qui vont fonctionner, c'est bien, mais sur des projets qui vont pouvoir aussi financer, on pense que c'est mieux. Voilà. Et puis, je termine parce que ce par quoi j'ai commencé, on connaît très très bien les usages, on investit beaucoup sur des outils qui permettent de capter les données d'usage de tous nos... je dirais contrat. Dans un contrat d'Econocom, il y a soit des collaborateurs de notre client, soit les clients finaux de nos clients. Et là, on est là pour capter de la donnée d'usage. J'utilise, j'utilise pas. Pourquoi j'utilise pas? J'utilise bien, j'utilise pas bien. Et tout ça, ça fait le ROI et le succès des projets. Donc, on a pensé que c'était une très bonne légitimité pour donner des conseils. Et surtout, un angle, je dirais, original pour le faire. Donc, on a décidé de créer cette structure qui va croître, je dirais, on l'espère assez vite, mais par croissance organique. Donc, ça va être la structure d'un cabinet de conseil classique avec des associés et des consultants. 58, pourquoi ? Et ça sera ma dernière slide. Parce que certains me demandent si c'est mon année de naissance. La réponse est oui. Mais ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'on va aider les gens à naviguer dans cet océan de complexité qu'est le digital. Jean-Louis a commencé son intervention en présentant cette vidéo sur Stripol. Vous avez vu, c'est compliqué. On est là pour simplifier. On est là pour rendre la vie facile. Mais la vie digitale, c'est compliqué. Je peux vous dire, et ça ne va pas se simplifier. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, mais pour nous, c'en est une, parce que justement, en tant que chef d'orchestre compétent, c'en est une très bonne. Eh bien, 58, c'est le nombre d'étoiles qui vous suffit de connaître. Alors, ce n'est pas si simple que ça, mais ça demande une heure ou deux d'efforts. Depuis l'Antiquité, pour vous positionner partout sur ce globe. Donc, vous avez quatre... C'est un peu contre-intuitif. Quand vous regardez le ciel, suivant où vous êtes sur la planète, vous avez quatre hémisphères. Bon, c'est un peu l'histoire des quatre tiers, mais quand on les regarde, voilà. Et avec 58 étoiles, vous savez exactement où vous êtes. Et on a voulu symboliser le fait que, humblement, 58 sera un cabinet de conseil qui aiderait nos clients à se positionner sur des territoires qui sont encore un peu inconnus, these uncharted waters de la transformation digitale. Voilà, je nous souhaite bonne chance. Mais... Et je repasse la parole avec plaisir à Galiane, qui nous ramène sur Terre. Là, on était un peu sur l'eau et Uncharted Waters. Là, c'est Very Charted Waters pour l'Outlook.
Merci beaucoup, Bruno. Donc, il est assez traditionnel de terminer cet exercice par l'Outlook. Donc, je vais vous parler très rapidement de nos perspectives 2019, donc vous l'avez compris, 2019, ça va être une année socle pour construire cette nouvelle phase de croissance du groupe. Julie et Bruno en ont très bien parlé. La guidance que nous avons donnée pour 2019, c'est une guidance en termes de résultats opérationnels courants, 128 millions d'euros, donc en progression d'un peu plus de 10% sur l'exercice 2019. C'est un chiffre qui intègre les investissements dont a parlé Julie, en particulier les investissements dans la force commerciale, qui vont permettre de poursuivre et d'accélérer la croissance dans nos activités opérationnelles. C'est un chiffre qui intègre également des économies importantes. On revient à une discipline qui est nécessaire. Ce n'est pas un gros mot, les plans d'économie chez Econocom. C'est ce qui a contribué à une partie de la croissance du résultat durant les deux derniers plans stratégiques. On y revient, cette discipline, avec un nouveau plan, 20 millions d'euros. Ce n'est pas le plan dans son ensemble, c'est l'impact sur l'année 2019 que nous en attendons. Il y a déjà, les mesures sont identifiées, la plupart sont décidées, certaines sont déjà mises en œuvre et la mise en œuvre des autres est planifiée. Donc 20 millions d'euros, c'est l'impact que nous attendons sur cette année. On parle de discipline pour finir. Ben, on souhaite poursuivre, vous l'avez compris, notre discipline en matière de gestion du cash. Et je vous ai donné tout à l'heure un certain nombre de leviers que nous allons continuer à mettre en œuvre au cours de l'exercice et qui va permettre de poursuivre la baisse de notre dette financière nette. Voilà, après ce moment rapide sur les perspectives 2019, je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc nous sommes tous à votre disposition, je dirais tous les quatre, mais aussi les dirigeants opérationnels qui sont dans la salle pour répondre à vos questions. J'ai vu une main.
Oui, bonjour, David Wagman, ING. J'avais une première question, en fait, c'était sur les objectifs financiers. Voilà, vous avez parlé d'un nouveau plan, une nouvelle phase. Bon, vous aviez un plan stratégique à horizon 2022. Est-ce que vous comptez à un moment recommuniquer sur des nouveaux objectifs financiers, les mettre à jour? Voilà, ça c'est une première question.
Merci.
Vous voulez poser plusieurs dessus?
Non, ce sera plus simple comme ça. Voilà.
Oui. Très bien. Bon, je m'attendais un peu à cette question. Je ne suis pas complètement surpris. Mais par contre, je vais vous surprendre en disant qu'aujourd'hui, un an après, je me sens beaucoup plus confiant dans l'atteinte du plan stratégique qu'il y a un an. À un an, on est en train de constituer une nouvelle équipe de direction. Et là, je vous l'expliquais tout à l'heure, j'avais l'impression de ne pas pouvoir vraiment diriger, qu'il y avait des forces contraires qui venaient du succès, des habitudes, qui faisaient que quand on essayait de faire des choses, on n'était pas toujours suivi.
L'avantage des difficultés rencontrées, des fortes difficultés rencontrées l'année dernière, parce que ça quand même, quand vous sortez de 10 ou 15 ans de succès, tout à coup une année où il n'y a pas de succès, tout à coup où les stock options des principaux managers fondent comme neige au soleil, les gens tout à coup se disent, tiens, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Et donc là, j'ai l'impression très nette aujourd'hui que quand je tourne le volant à gauche, ça tourne à gauche, et quand on tourne à droite, ça tourne à droite. Et donc la probabilité, les chances d'accomplir ce plan sont plus fortes maintenant qu'il y a un an. Alors, ce plan a été bien construit, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions. On n'avait pas tout à fait assez de McKinsey. On a enrichi beaucoup ce plan avec McKinsey. Je ne vous cacherai pas que je ne croyais pas, moi, à McKinsey. Je me disais, comment est-ce que des gens jeunes, brillants, peuvent m'apprendre, moi, dans mon métier que je fais depuis 45 ans, ce n'est pas possible. Donc, quand on m'a... c'est Robert qui avait décidé de faire l'équipe McKinsey. Donc, il m'a dit, vous devriez lire, il y a 3 sets de documents. Il y en a un qui fait 3 pages, un 8 pages et un 150 pages. Bon, pour faire plaisir à Julie, j'ai lu celui de 3 pages. J'ai dit, oui, c'est pas bête. Bon, mais bon, j'apprends pas grand-chose. Après, j'ai lu celui de 8 pages. Oui, bon, j'ai toujours rien appris. Et Julie m'a dit, maintenant, vous devriez regarder le truc de 150 pages. Et coup de peau, je sais plus pourquoi, j'ai passé un week-end, j'avais du temps, il pleuvait, je sais plus quoi. J'ai lu les 150 pages et j'ai complètement changé d'avis. Et j'ai vu que quand il y a des gens brillants qui regardent sans parti pris un métier, son historique, ce que font les concurrents, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans les objets, eh bien, il y avait énormément de choses à apprendre. Et j'ai complètement changé d'avis. Et donc, je suis converti non seulement à Julie, mais à McKinsey. Et merci, Robert, d'avoir pris cette initiative. Alors, une fois convaincu, ben, j'ai réuni la nouvelle équipe de direction. On a passé une semaine ensemble en janvier. C'était très dur, c'était à Mégève. Il y avait beaucoup de neige. Mais on a travaillé quand même. Et tous ensemble, on s'est rendu compte que finalement, on a construit un plan stratégique qui a beaucoup de valeur, qui peut être énormément amélioré grâce à nos amis de McKinsey. Alors, on a beaucoup avancé dans la partie TMF. On avance actuellement dans la partie Product and Solution. Et il y a tout un plan de travail pour les services, parce qu'on a trouvé que c'était tellement riche, il fallait continuer. Mais pour terminer sur votre question, je suis totalement confiant dans ce plan. Je pense que ça prendra peut-être un an de plus. Mais je ne suis pas sûr. Et on s'en fout. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'un plan stratégique, ce n'est pas un budget. Quand on dit budget à un an, on ne s'en fout pas. Il y a des gens, il y a des actionnaires, il y a des banquiers, il y a des financeurs, il y a des stock options. Ça, c'est concret. Pourquoi on prend 5 ans ? Parce que si vous prenez trop long, ça devient un peu du rêve. Si on prend 7, 8 ans, on se dit, bon, on ne sera peut-être plus là. Et si vous prenez trop court, ça devient dans le budget. Donc, 5 ans, c'est un ordre de grandeur. Donc, il y a un an qui s'est passé. Je ne peux pas répondre à la question aujourd'hui en disant, est-ce que ça sera à 5 ans ? La probabilité, c'est plutôt un an de plus, mais c'est la même direction, les mêmes chiffres et le même métier. Est-ce que ça répond à votre question ?
Tout à fait. Un autre point, donc une autre question. Par rapport à la génération de cash, vous insistez aujourd'hui sur le fait que vous voulez vous désendetter, si je comprends bien, pour justement vous donner plus de liberté d'action pour croître là où vous voulez croître. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Parce que compréhension disons, du plan stratégique, c'était qu'avec les investissements dans la captive, les investissements dans le M&A, ben en fait, fondamentalement, il n'y avait pas forcément des masses de génération de free cash flow. Et c'était, en tous les cas, pas un objectif officiel.
Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, on a vu que quand il y a une combinaison de baisse de résultats plus un moins bon contrôle de cash, il y a une inquiétude totalement légitime de nos partenaires financiers en interne, parce qu'on... Quand on s'endette, on transfère une partie de son pouvoir à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on parle beaucoup des accords économiques et de l'attitude de Trump dans la signature des accords. Moi, je ne suis pas un grand fanatique de Trump sur tous les sujets. Là-dessus, je pense qu'il a tout à fait raison. À partir du moment où vous avez un déficit commercial avec la Chine de 500 milliards de dollars par an, au bout de 10 ans, vous confiez aux Chinois 5000 milliards de dollars. C'est un tiers de la balance de la Banque fédérale américaine, vous avez transféré beaucoup de pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc, généralement, l'endettement doit être maîtrisé. On souffre, chez Econocom, d'une ambiguïté, parce qu'on n'est pas une ESN classique, on est une ESN qui finance. C'est quand même... D'ailleurs, c'est beaucoup de mal, on a du mal à nous mettre dans des cases. Et donc, quand on regarde le bilan, on fait des PER, des analyses, etc., en disant que vaut Econocom c'est X% de machin, moins la dette. Et on oublie qu'une grande partie de notre dette, c'est quand même des équipements qui nous rapportent des loyers tous les mois. La dette qu'on affiche, 250 millions aujourd'hui, il y a en face de ça des loyers commités par nos clients sur 250 millions, même plus, sur lequel il y a un taux d'impayé ou de risque de 1 ou 2%. Mais ça ne fait rien, l'image fait, et une comptabilité, une présentation, des chiffres, un bilan, c'est une image. Et donc cette image fait qu'il y a un doute sur la solidité d'Econocom, sa capacité à affronter son avenir, sa capacité à investir. Et donc j'ai voulu faire un espèce de défi interne en disant ben, montrons au marché qu'on ne dépend pas de cette dette. Et donc on va un jour de cette année ou l'année prochaine essayer d'avoir une dette voisine de zéro, une dette nette comptable. En trésorerie, il n'y a aucun problème. Vous avez vu, si vous regardez les chiffres, à la fin de l'année dernière, je crois qu'on avait 600 millions de trésorerie. Donc c'est pas la trésorerie, c'est la dette nette comptable. Donc, et en plus, avec IFRS, le nouveau 7, on nous a rajouté une couche de 70 millions. Bon, mais ça, c'est pas grave, ça demande un peu plus d'exercice. Mais l'objectif, c'est justement de nous montrer à nous-mêmes, de montrer au monde extérieur, de vous montrer qu'on peut travailler sans dette. Simplement, c'est une espèce de, comme se laver, prendre une douche, etc. On peut, voilà. Donc, c'est l'exercice que je demande en disant, écoutez, montrez qu'on peut le faire. Une fois que vous aurez vu qu'on peut le faire, eh ben, on pourra se réendetter pour faire des investissements, pour faire tout, pour être entrepreneur. C'est notre métier, c'est notre devoir. On adore ça. Mais c'est un signal qui est fait pour rassurer tout le monde et tout le monde est convaincu qu'on va y arriver.
D'accord. Merci. Merci.
Pas faux, mais non, on va y arriver. On va y arriver. C'est amusant. Il faut des défis, vous savez. Ça, c'est un défi qui me plaît. Peut-être, monsieur.
Oui, j'avais une toute dernière question. Une toute dernière.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la même question. Donc, c'est pas...
Au niveau stratégique, donc, vous parlez d'un, je vais le dire en anglais, hein, désolé, d'un refocusing on certaines activities. Est-ce que vous pouvez en dire plus aujourd'hui?
Alors, c'est simple. Tout à l'heure, on a parlé de 4 satellites, 3 ou 4 satellites qui ne sont pas exactement la stratégie. Econocom, on n'est pas fabricant, on ne fabrique pas d'équipement, on n'est pas éditeur de logiciels. Et dans ces 24 satellites, il y a 2 satellites qui font de l'édition de logiciels. Et donc, il y a SinerTrade et Aragon. Et donc, on a très bon rapport avec la responsable d'Aragon et le responsable de SinerTrade, M. Oberhardt, mais il n'y a pas beaucoup de synergie, ce n'est pas notre métier, on ne sait pas bien le faire, et c'est assez spécifique, et typiquement, on a entrepris avec ces gens-là, et des amis banquiers qui sont d'ailleurs dans la salle, le fait de céder ces activités, peut-être au manager, peut-être à deux gens intéressés. Ils ont beaucoup de succès, il y a eu des gros contrats signés l'année dernière avec ces logiciels, ce sont des bons logiciels, mais on ne leur apporte pas grand-chose. Et donc, typiquement, c'est genre de... Il y a d'autres métiers. Les métiers évoluent en permanence. Et donc, par exemple, dans les métiers de service, il y a des nouveaux métiers d'avant-garde dans les services. Et il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Donc, il y a des métiers qui peuvent être faits par des gens plus compétents que nous. Donc, on est en train de regarder pour savoir si à quel moment ou jusqu'à quand on les garde. Et notre préoccupation, c'est de fournir 11 000... personnes d'Econocom, un métier passionnant, captivant, qui leur permette de vivre correctement. Si certaines activités, il y a des gens mieux placés que nous pour le faire, il vaut mieux passer la main.
Très bien, merci.
Voilà, monsieur. 1, 2, 3, troisième rang.
Oui, bonjour, Nicolas David, Odo BHF. J'avais 2 questions. La première, c'est concernant les services et la rentabilité. Est-ce que vous voyez un peu le bout du tunnel sur les grands projets d'outsourcing et leur rentabilité?
Laurent, qui est au premier rang, qui allait s'endormir. il revient d'une soirée à Toulouse hier, qui était un petit peu arrosée, si j'ai bien compris.
Non mais ça va, je suis en forme.
C'est déjà un début d'explication. Alors,
Laurent est dans le groupe Econocom depuis un peu plus de 3 ans.
4 ans maintenant.
4 ans, oui, ça passe vite. Et a repris l'ensemble des activités services il y a un an.
C'est ça.
Voilà, bon.
Donc on avait échangé au mois de septembre dernier sur la nouvelle dynamique qu'on était en train d'installer sur l'activité service planète. Et donc je vous confirme qu'on est en train d'améliorer la rentabilité. On est même dans une logique de croissance rentable puisqu'on a fait plus de 4% en fin d'année dernière. Et que le début de ce premier trimestre se passe très bien avec une croissance à deux digits et une amélioration de la rentabilité très forte.
Alors c'est pas venu par hasard. Laurent a changé toute son équipe de direction. Donc déjà, ces 3N-1 sont nouveaux.
Exactement.
Viennent du métier. Il y en a un qui est en interne, c'est Alexandre.
Ouais.
L'autre, il y a Long qui vient de...
Chez Atos.
De chez Atos. Et Asquet.
De chez Sogeti.
Sogeti. Donc il a pris les meilleurs du marché. Il a fait jouer son réseau. Moi, je les ai rencontrés. Et je peux vous dire que j'ai le sourire.
Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ?
Et la deuxième question, oui, ça répond. La deuxième question, c'est sur les rachats d'actions. Vous avez été très actif là-dessus. Vous êtes, je pense, peut-être pas très loin des accords que vous aviez de rachat d'actions. Est-ce que vous avez prévu d'en faire voter d'autres et de continuer, ou est-ce que c'est bon pour le moment ?
Alors, le groupe a toujours eu cette politique. On ne peut pas racheter énormément d'actions et viser la dette zéro. Il va falloir faire un compromis. Mais à un moment donné, c'est une tellement bonne affaire qu'on n'a pas pu résister. Là, pour le moment, on va regarder un peu ce qui se passe. On ne va pas appuyer là-dessus très fort, sauf si jamais le cours rebaissait à des niveaux qui seraient particulièrement intéressants, auquel cas, même personnellement, je vais peut-être casser ma cassette pour en racheter, parce que ça serait dommage de passer à côté.
Et pour finir, que comptez-vous faire des actions autodétenues aujourd'hui ?
Il n'y a pas de projet à court terme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le plan stratégique, on a prévu une assez grosse acquisition dans 2 ou 3 ans. Ça pourrait être payé par ces actions, par exemple.
Merci.
On a tellement bien parlé qu'il n'y a pas de questions. Hein. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions... merci de votre attention.
S'il n'y a pas de questions, voilà. Merci. Et merci on peut beaucoup. Prendre, je pense, un petit verre. Merci Jean-Louis.
Merci à vous. C'est vous. C'est Galiane qui était trop forte. Elle a répondu à tout. Com.
Alors le cocktail, il y a un cocktail évidemment. Hein. On est là pour se connaître et échanger.